Bonjour à tous.
L'arrestation près de Paris d'un homme de 29 ans qui pourrait bien être un tueur en série. L'actualité est chargée du week-end, a quelque peu fait passer cette arrestation au second plan. Et pourtant, l'homme interpellé est vendredi à Châtenay-Malabry dans les Hauts-de-Seine, Patrice Allègre, 29 ans, pourrait bien être un véritable tueur en série.
Bonsoir. 5 meurtres, une tentative de meurtre, 6 viols. Patrice Allègre, bientôt 53 ans, reste à ce jour l'un des plus redoutables tueurs en série français. En 2002, il avait été condamné à la perpétuité. Sa peine de sûreté, 22 ans, vient d'arriver à son terme. Allègre serait théoriquement libérable, mais les experts psychiatres se sont opposés à toute sortie conditionnelle. L'homme est toujours considéré comme hautement dangereux, une personnalité psychopathique qui pourrait repasser à l'acte. Ainsi, plus de 30 ans après son premier meurtre, le portrait de Patrice Allègre, dressé par les experts, demeure toujours aussi sombre, comme s'il restait habité par une sourde violence, par un instinct irrépressible de faire le mal et de commettre le pire. Allègre sortira-t-il un jour de prison ou bien son étiquette de criminel célèbre l'en empêchera pour encore de longues années? Nous allons bien sûr poser ces questions et bien d'autres à nos invités et refaire le parcours de cet homme, le mystère Patrice Allègre, qui, malgré les enquêtes, malgré un procès, a laissé derrière lui bien des zones d'ombre, des interrogations et des silences.
20h-21h, Jean-Alphonse Richard sur RTL. L'heure du crime.
Et ce soir donc dans l'heure du crime, le mystère Patrice Allègre, déjà 22 ans passé en prison pour ce tueur et violeur en série, une trajectoire meurtrière longtemps insoupçonnée qui se termine à la fin de l'été 1997 en région parisienne. Ce 5 septembre 1997, dans l'après-midi, les gendarmes poussent la porte d'un appartement de Châtenay-Malabry dans les Hauts-de-Seine et interpellent un homme de 29 ans, le dénommé Patrice Allègre, recherché depuis plusieurs mois pour une série de crimes, un viol et une tentative de meurtre à Toulouse sur une jeune femme, Émilie Espèce, qui a survécu et a pu décrire son agresseur. Soupçonné aussi du meurtre de Laure Martinet en janvier 1986 et aussi, plus récemment, de Mireille Normand, une jeune femme de 35 ans, étranglée et violée dans un petit village de l'Ariège. Il faut ajouter à cette liste un dernier crime que Allègre aurait perpétré la veille de son arrestation. Une jeune femme chez qui il était hébergé alors qu'il se savait recherché et traqué, Isabelle Chichery, étranglée et violée dans son appartement du 15e arrondissement de Paris. Il a mis le feu à l'appartement pour maquiller le meurtre en suicide. Le gendarme de Toulouse, Michel Roussel, technicien en identification criminelle, a été envoyé à Paris avec deux collègues pour assister à l'interrogatoire. Première rencontre entre un enquêteur qui va passer les années suivantes à décortiquer le parcours criminel d'Allègre. Avec ce gendarme, Allègre se sent en confiance. D'emblée, il déclare « Je sais pourquoi vous venez, c'est pour Martine. » C'était en 90 en Ariège. Les gendarmes n'avaient pas ce prénom dans leur tablette. Peut-être un autre crime, une autre victime. Patrice Allègre a alors tout du tueur en série. L'arrestation de Patrice Allègre passe à l'époque quasiment inaperçue, occultée par la mort accidentelle de la princesse Diana. Personne alors ne se préoccupe vraiment de la trajectoire de cet homme qui va livrer au fil des mois ses effarants secrets. Patrice Allègre désignera ainsi le plus souvent ses victimes par leur prénom, se souvenant de tout et n'omettant aucun détail. Mais à chaque fois qu'on lui demandera pourquoi il a tué, il se calfeutrera dans le silence. Allègre, né le 20 juin 1968 à Toulouse, a connu une enfance dans le désordre, une mère coiffeuse qu'il vénère, un père CRS qu'il déteste. À 14 ans, il met l'école entre parenthèses, conduit sans permis, de grosses motos, vole des voitures, multiplie les cambriolages, vend du haschich. C'est un jeune homme violent qui peut détruire à coups de batte de baseball la voiture d'une voisine. À 19 ans, sa rencontre avec Cécile et la naissance d'une petite fille ne l'apaise pas. Il apparaîtra qu'il a tué pour la première fois quand sa compagne était enceinte et une deuxième fois quand sa fille avait 7 mois. Bonsoir Michel Roussel.
Bonsoir.
Merci beaucoup d'être ce soir en ligne dans l'heure du crime et d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes ancien gendarme et on l'a bien compris, vous avez participé à cette enquête le plus près possible. D'ailleurs, c'est vous qui l'avez menée quasiment dès le début. Vous avez été le directeur d'enquête de la cellule homicide 31 dont on parlera un petit peu plus tard dans cette heure du crime. Michel Roussel, quel est le souvenir que vous avez de cette première rencontre, ce premier face-à-face qui, je crois, est décisif avec Patrice Allègre?
Décisif car il a un comportement qui est atypique par rapport à ce qu'on attend d'un tueur, violence, énervement ou abattement suite à l'arrestation, alors qu'il est totalement calme, maître de lui, très réfléchi, donc quelqu'un qui est totalement sous contrôle, malgré l'épuisement physique que l'on peut discerner. Donc il nous présente un portrait, une attitude qui ne colle pas avec ce à quoi on peut s'attendre.
C'est-à-dire, vous pensez que on lui reproche peut-être des choses qu'il n'a pas fait, ou vous avez du mal à le cerner tout de suite, cet homme?
Non, il n'y a aucun doute dans notre esprit, puisqu'on a des éléments de preuve très, très forts, donc il n'y a aucun doute dans notre esprit qu'il est bien l'auteur des faits pour lesquels il a été interpellé, pour lesquels on est monté sur Paris. Mais par contre, il n'est pas battu. Enfin, on a face à nous quelqu'un presque un joueur d'échecs, vous voyez, quelqu'un qui est totalement dans le contrôle, la maîtrise, qui nous analyse autant, voire plus que ce que nous, on peut l'analyser. Donc c'est perturbant, c'est interpellant.
Alors c'est un jeu effectivement auquel se livrent beaucoup de tueurs en série. On pense immédiatement à Fourniret, qui a aussi cette attitude de vouloir tester un petit peu son adversaire, de vous regarder les yeux dans les yeux. Vous avez l'impression qu'il va falloir jouer avec lui?
Jouer, le terme ne convient pas, mais il va falloir composer avec lui, il va falloir le décrypter, il va falloir se donner les capacités, pas uniquement matérielles, intellectuelles, d'investigation, de s'adapter aux problèmes qu'il va nous présenter et puis aux cas typiques qu'il est, et déjà on le ressent physiquement.
Tout à fait. Bonsoir Patrick Tégéraud.
Oui, bonsoir Jean-Alphonse.
Alors Patrick, vous êtes journaliste RTL et vous êtes le patron du bureau de Toulouse, cette belle région d'ailleurs où est né Patrice Allègre. C'est un garçon du quartier des Isards. Je l'ai très brièvement dit, mais c'est une enfance déshéritée, assez modeste, c'est ça, on peut dire ça de Patrice Allègre?
Oui, alors son père était contrôleur de compteur de gaz. Il est devenu CRS quand Patrice avait 6 ans. Sa mère a été coiffeuse longtemps et puis elle a arrêté de travailler. Donc c'est une enfance très modeste, mais qui est surtout marquée par la violence. La violence du père de Patrice, Roland Allègre. D'ailleurs, Patrice Allègre dira lors de son procès, ça nous a tous fait froid dans le dos, je regrette de ne pas avoir tué mon père. Il l'a répété à plusieurs reprises. Ce père qui est extrêmement violent avec sa mère. Et d'ailleurs, je dirais que Patrice Allègre a donné l'explication de sa violence à l'égard des femmes en décrivant celle de son père, en disant « Voilà, j'ai toujours vu mon père battre ma mère et lui faire l'amour dans la foulée. » Et ça, pour lui, c'était devenu, je dirais, quelque chose de normal. Et je ne sais pas encore quelle influence ça a pu avoir sur son psychisme. Maître Alfort pourra le préciser peut-être. Mais il est certain que cette vie de violence n'a pas facilité les choses pour ce jeune garçon qui est très vite un délinquant. Et qui est très vite un délinquant impuni. Il faut savoir qu'il passe à travers toutes les mailles du filet, que tous les éducateurs qui s'occupent de lui considèrent que il est un peu l'exemple même de l'échec du système français en matière de jeunes délinquants. Et surtout aussi parce que son père étant policier, il fait pression. Oui. C'est-à-dire que lui, il corrige son fils, mais il fait en sorte que ça s'arrange. Essaye de passer les choses à l'amiable. Quand il détruit à 14 ans la voiture de sa voisine ou de sa petite amie, on passe l'éponge, on rembourse. Et on n'ira pas plus loin. Et donc il y a ce sentiment d'impunité, de violence, et cette volonté d'aller toujours plus loin, à l'aide des drogues également, puisqu'il va tomber très vite dans la drogue, et aussi peut-être aussi dans la prostitution.
Tout à fait. C'est dans le dossier. Alors justement, Maître Pierre Alfort, vous êtes l'avocat de Patrice Allègre. Merci beaucoup, vous également, d'être ce soir invité dans l'heure du crime. Alors, Patrick Tégéraud vient de nous expliquer cette espèce d'effet miroir avec sa mère, cette famille qui est dans la violence. Est-ce que vous qui le connaissez bien et depuis le début, Maître Alfort, est-ce qu'il vous parle de cette enfance et de ce passage, etc., de cette période de sa vie ou pas du tout? Allègre.
Patrice Allègre reste quelqu'un de relativement taisant. Enfin, il a du mal, et ça peut se comprendre, il a du mal tant de parler des faits qui lui sont reprochés que de sa propre enfance. Ça m'étonne qu'à moitié, parce que cette enfance est une enfance qui l'a complètement déstructuré. Il a été, on peut le dire d'une manière ou d'une autre, massacré tant par son père que par sa mère. Enfin, c'est pas un dégénéré, Patrice Allègre, c'est un mal généré. Donc, c'est quelqu'un qui a du mal, bien évidemment, à en parler parce que pour lui, je pense que c'est une souffrance. Alors qu'on soit bien d'accord, hein. Moi, je cherche pas à excuser.
Non, mais puis on l'excusera pas. On l'excusera voilà, pas, évidemment.
Juste, alors, moi, si vous me demandez pourquoi Patrice Allègre est passé à l'acte, je suis pas comme le gendarme Roussel qui le connaît parfaitement et qui peut tout expliquer. Moi, ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est que c'est très compliqué de pouvoir expliquer le phénomène du passage à l'acte, à un point tel que l'expert Zaguri, qui est quand même quelqu'un de réputé, a émis un certain nombre d'hypothèses, mais n'a absolument pas pu.
On y viendra de toute façon, maître. Au fil de cette émission, on va évidemment parler. Effectivement, l'explication pour ce genre d'acte, elle est quasiment impossible, même quand on est le plus grand expert psychiatre qui soit.
L'heure du crime sur RTL.
Heure du crime consacrée ce soir au tueur en série Patrice Allègre. 22 ans déjà écoulés derrière les barreaux. Arrêté au mois de septembre 1997, l'enquête va dès lors révéler un parcours criminel hors norme. Après son arrestation, Patrice Allègre est incarcéré dans la région de Toulouse. La justice le soupçonne alors de 4 meurtres de jeunes femmes. Laure Martinet en 1990 en Haute-Garonne, Mireille Normand en 1997 près de Foix, Isabelle Chicherie en 1997 à Paris. L'arrestation a permis d'ajouter une 4e victime, Martine Mathias en 1997. Un prénom spontanément évoqué par Allègre. La victime avait été découverte chez elle, attachée, les mains dans le dos, à moitié carbonisée dans l'incendie de son appartement, des traces de chloroforme dans le corps. En dépit de cette scène pour le moins troublante, la police avait conclu un suicide et classé l'enquête. Les gendarmes, parmi lesquels l'enquêteur Michel Roussel, qui a un bon contact avec Allègre, lui rendent régulièrement visite en prison pour leurs investigations. Le 3 décembre 1997, 3 mois après l'arrestation, ils se rendent avec lui à Saint-Geniès-Bellevue, où a été découvert le corps de Laure Martinet. Sur le chemin du retour, Allègre, en veine de confidence, arrête soudain la voiture et indique un lieu où, dit-il, il a tué une autre fille. Elle s'appelait Valérie. Elle travaillait avec moi au buffet de la gare. Apparaît alors dans la nébuleuse Allègre une 5e victime, Valérie Tariotte, morte le 27 février 1989 au numéro 7 de la place commerciale de Jolimont à Toulouse. Retrouvée à moitié nue, bâillonnée par un foulard, la tête dans une casserole pleine de sang. Là aussi, la police avait conclu à un suicide à cause de la découverte sur place d'un livre sulfureux et alors à la mode, suicide mode d'emploi. Valérie Tariotte est à ce jour la première victime de Patrice Allègre. Impossible de savoir à cette époque si Patrice Allègre ne cache pas d'autres forfaits. D'autant plus que le gendarme Roussel est intrigué par une période de 7 ans, 1990-1997, au cours de laquelle le tueur n'aurait commis aucun crime. Une période blanche, trop longue pour être vraie selon certains enquêteurs qui exploreront non sans difficulté cette longue parenthèse, notamment avec la mise en place de la cellule Homicide 31, entièrement dédiée au cas Allègre. Un criminel qui ne ressemble en rien à un Guy Georges qui traquait ses victimes ou à un Thierry Paulin qui ciblait des vieilles dames fragiles. Les femmes tuées par Patrice Allègre sont toutes des connaissances avec qui il a établi un lien de confiance, avec qui il a flirté, pris des verres. Il passe à l'acte quand elle se refuse à lui. Au moment où je veux l'embrasser, elle refuse, alors je dégoupille et je la tue, confiera Allègre. Émilie Espèce, qui parviendra à avoir la vie sauve après avoir été violée, racontera le changement brutal d'attitude de son agresseur. C'est un rusé, un calculateur. Il m'a sauté dessus pendant mon sommeil. Pas une fois de la journée, il ne m'a laissé entrevoir ses projets. La surprise a été totale, terrible, confiera-t-elle au journal La Dépêche du Midi. Patrick Tégéreau, journaliste à RTL et le patron du bureau de Toulouse, est en ligne ce soir dans l'heure du crime. J'en parlais dans ce petit récit. Deux suicides qui se sont avérés être des meurtres. On peut dire que vous avez déjà dit que Allègre avait eu de la chance quand il était jeune délinquant en échappant à la police. Là, c'est plus que de la chance. Il a eu le temps de prendre le large.
Oui, il a eu le temps de prendre large. Et ce qui est quand même très étrange, c'est que donc deux fois en classe en suicide, des meurtres, je dirais, évidents. Et ce qu'il faut essayer de comprendre, c'est qu'entre 86 et 97, je crois que c'était la cellule homicide 31, Michel Roussel pourra le préciser tout à l'heure, je crois qu'ils avaient comptabilisé à l'époque 191 cas
tout à fait.
De disparition, de viol ou de meurtre non élucidé.
Tout à fait.
Ou classé suicide. Bon, ça fait beaucoup.
Ça fait
peut-être un peu trop d'ailleurs. Des médecins légistes ont dû en répondre devant la loi. Il y a eu quand même pas mal d'interrogations sur leurs compétences, sur leur capacité. Et il y a eu une époque à Toulouse où les femmes disparaissaient et cela semblait faire de soucis à personne, ce qui était assez étrange. Et dans cette période-là, il y avait Allègre qui était
qui a réussi à se faufiler finalement.
A réussi à faire son petit business de dealer, qui a réussi à assouvir tous ses fantasmes et toute sa violence.
Tout à fait. Michel Roussel, justement, vous êtes en ligne également ce soir dans l'heure du crime, ancien gendarme, et c'est vous qui avez les manettes de l'enquête qu'ils ont eues pendant très longtemps. Il a besoin, à cette époque, de se confesser, Allègre. Là, on n'est pas encore au procès, vous êtes en pleine enquête, vous venez de... il va y avoir la cellule homicide 31. Vous sentez quelqu'un qui peut apporter toujours aux enquêteurs, il faut le confesser en permanence. Comment ça se passe ?
Non, hélas, il ne s'agit pas de confession. Il s'agit plutôt de... Même pas de tractation. On arrache bribe par bribe des éléments de son passé, jamais liés à des faits. Et on essaie de reconstituer, d'abord de comprendre et de reconstituer son passé. Parce que lorsqu'il nous parle d'une Peugeot 505 blanche, on va aller chercher dans des dossiers traces de véhicules Peugeot. S'il était dans le Lot, tel département, dans telle période, on va essayer de retrouver des faits. Monsieur Tégéraud l'a très justement soulevé. C'était une période noire qui a duré quand même très 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 longtemps sur Toulouse, où des jeunes femmes disparaissent. Effectivement, ça n'inquiète personne. Des suicides qui sont pourtant des meurtres avérés passent comme une lettre à la boîte. Donc on découvre, on soulève le tapis, on découvre ce constat catastrophique d'une situation toulousaine qui n'est pas soldée aujourd'hui. De toute façon, on n'a fait que révéler l'existence d'une boîte à Pandore qui reste à ouvrir.
Gabriel Loubradou, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Vous êtes le fondateur de l'association Stop à l'oubli, association créée à la suite de l'arrestation de Patrice Allègre, qui regroupe les familles de victimes. Le constat que fait Michel Roussel à l'époque, lorsqu'il y a cette cellule ouverte, il est effarant. Vous le partagez pourquoi avoir créé finalement cette association? C'est pour essayer d'avoir la clarté sur certaines affaires oubliées ?
Oui, bien sûr. C'est-à-dire que déjà, étant père d'une fille disparue, j'ai souffert d'un sentiment d'isolement et face à l'administration judiciaire. Et je crois que toutes les familles de victimes sont passées un peu par cette solitude. C'est donc parce que je me sentais seul que j'ai compris qu'il fallait faire appel à toutes les familles de victimes de ce qui pouvait rappeler un peu l'affaire Allègre, vous voyez. Et j'avoue que là, nous devons beaucoup à Michel Roussel, parce que je le voyais assez souvent, même quand je suis parti à l'île de la Réunion là, pendant 10 ans, chaque fois que je revenais, je passais à la section de recherche, et lorsque Michel Roussel a pris la cellule homicide 31, je le voyais très souvent. Et je sais que au moment d'une de ces réunions, il me dit: oui, mais vous savez, chaque fois que nous nous réunissons avec les magistrats, avec l'état-major, etc., il y a toujours une chaise vide. Et moi, naïvement, je lui dis mais laquelle? Et c'est là que j'ai compris que c'était un appel du pied. Il m'a dit: mais un représentant des familles et des victimes. Donc en 2003, au mois d'août, j'ai lancé un appel dans le quotidien régional, mais sans résultat. Par contre, j'ai eu des tas et des tas de personnes qui m'ont appelé, me soutenant. Et grâce, il faut bien le dire, à certains enquêteurs, à certains journalistes, j'ai pu avoir les noms des familles et de victimes. Et c'est à ce moment-là que j'ai lancé un deuxième appel, en décembre 2003, à toutes les familles dont on m'avait donné les noms.
Et le résultat sera effectivement tout à fait édifiant. Patrice Allègre, poursuivi pour 5 meurtres, une tentative de meurtre et 6 viols, va comparaître devant une cour d'assises. Sa parole est très attendue, le moment peut-être de savoir qui il est vraiment. Le lundi 11 février 2002 s'ouvre à Toulouse, devant la cour d'assises de Haute-Garonne, le procès de Patrice Allègre. Dès les premiers jours, l'ambiance est lourde, électrique. Le père de Laure Martinet, l'une des victimes, a juré de tuer ou de faire tuer l'accusé. « Ma femme et moi, on t'a condamné à mort, tu ne sortiras pas, on va te faire buter », lance ce chauffeur de taxi par précaution. On fait porter à l'accusé dans le box un gilet pare-balles. Il semble plutôt là et s'exprime sur un ton monocorde. Aucune surprise ne vient émailler ses déclarations. Des phrases déjà formulées devant les gendarmes à propos de Laure Martinet, il raconte « Dans la voiture, on a fumé, je crois que j'ai essayé de l'embrasser. Elle a refusé, je l'ai étranglée, je l'ai déshabillée, je l'ai violée. Je suis parti et je l'ai mise dans le fossé. » Rien ne semble vraiment perturber Patrice Allègre. Même pas son ancienne compagne Cécile, avec qui il a eu une petite fille. Elle l'exhorte à vider son sac, mais il ne répond pas vraiment. « Je me demande comment on a pu avoir un enfant ensemble. Tu n'as pas de cœur », lance Cécile. Allègre se replie sur lui-même. La seule fois où l'accusé semble réellement s'animer, c'est lors du témoignage à la barre de son père, Roland Allègre, qui indique qu'il n'est pas prêt à embrasser son fils. Allègre commente « Si j'ai un regret, c'est de ne pas t'avoir tué, comme je l'avais dit à ma mère. Sinon, j'aurais pas fait tout ce mal. » Le jeudi 21 février, en fin d'après-midi, le verdict tombe après 10 jours d'audience. Il est sans surprise. Patrice Allègre écope de la perpétuité, assortie d'une peine de sûreté de 22 ans. Auparavant, l'accusé avait écouté, sans lever les yeux, l'avocat général égrenant ses réquisitions, passant en revue les mensonges, les omissions de l'accusé, évacuant toute pulsion et insistant sur la préméditation des crimes. « J'ai trouvé que vous étiez... » Fêtard, alcoolique, égocentrique, violent, voleur, inaffectif, asocial, psychopathe, mauvais ami, mauvais fils, mauvais père, violeur et meurtrier. L'un des avocats de l'accusé, Pierre Alfort, dira pour sa part être confronté depuis 4 ans et demi au cas Patrice Allègre et s'adressera ainsi aux jurés. « Il y a de l'inhumain dans l'humain, Patrice n'est pas un monstre, les monstres n'existent pas. Ce serait rassurant, ça nous protégerait parce qu'il nous fait peur. » Au psychiatre, Allègre avait un jour déclaré « Quand j'ai tué la première fois, je croyais que c'était un accident, que cela ne se reproduirait jamais. » Maître Pierre Alfort, vous êtes ce soir en ligne dans l'heure du crime. Voici donc pour ce procès qui envoie Patrice Allègre derrière les barreaux pour de très longues années. Vous n'allez d'ailleurs pas faire appel avec votre client. Je pense que vous jugez que c'est inutile pour éviter de faire sans doute de la peine aux victimes, de rajouter encore du malheur au malheur. Quel souvenir avez-vous de ce procès ? Il ne vous a pas facilité la tâche tout de même, votre client Patrice Allègre ?
Patrice Allègre nous a pas facilité la tâche, mais il nous l'avait facilité, si je puis dire, en reconnaissant et en assumant l'ensemble des faits qui lui étaient reprochés. Alors c'est vrai qu'on a reproché justement à Patrice Allègre de pas avoir suffisamment parlé durant ce procès. Le problème, c'est que non seulement il ne pouvait pas parler, mais je pense aussi qu'il ne devait pas parler. Il ne devait pas parler parce que il y a des choses qu'il ne devait pas dire, par respect, je crois, pour les familles des victimes. C'est justement le docteur Zaguri qui disait, imaginez un seul instant qu'Allègre parle, qu'Allègre énonce les faits précisément qu'il a pu commettre, et la salle de la cour d'assises, se viderait. Donc c'est quelqu'un qui n'a pas parlé, il ne pouvait pas, il ne devait pas parler, et s'il avait parlé, je pense qu'à juste titre, on aurait pu le considérer comme un monstre froid qui assène une terrible réalité aux familles des victimes. Donc je crois que cette retenue s'expliquait peut-être par une personnalité certes particulière, mais qui l'a conduit à un minimum. C'était vraiment le minimum de respect.
Et c'est pour cela que vous avez décidé de ne pas faire appel, finalement, avec ce procès.
Mais l'enjeu... Pardon, l'enjeu n'était absolument pas la peine. La peine, nous la connaissions dès le départ. C'était la réclusion criminelle à perpétuité assortie d'une peine de sûreté de 22 ans, c'est-à-dire la peine maximale en ce qui le concernait. L'enjeu, c'était de ramener Patrice Allègre au rang des humains, parce que c'est vrai qu'avant ce procès, il était décrit par les médias comme un monstre, et par l'opinion publique comme un monstre. Bien évidemment, les monstres n'existent pas, je l'ai plaidé. Et notre objectif avec Laurent Bourrier, c'était tout simplement de tenter d'humaniser Allègre, de démontrer que ces monstres n'existent pas et que Allègre est un homme qui est également et aussi le produit de notre société.
Alors, tâche énorme et vraiment pas facile, je suppose. Patrick Tégéraud, vous étiez évidemment aux audiences pour RTL, notre radio. Quel visage, souvenez-vous, qu'il montre Patrice Allègre ? À quoi il ressemble à ce moment-là ?
Il est tel qu'on l'a vu sur toutes les photos qui ont fait le tour un petit peu de tous les médias et toutes ces images. Et le crâne rasé, le regard bleu, une belle carrure, il fait un peu plus de 1m80 pour 70 kilos, athlétique. Et la parole est rare. La parole est rare, mais quand il parle, on a l'impression qu'il pèse ses mots. Et quand il vous regarde, on a l'impression qu'il vous exécute. Je me souviens l'avoir croisé pour la première fois dans les couloirs du palais de justice de Toulouse, à la sortie d'un bureau d'un juge d'instruction. J'ai croisé son regard et franchement, c'était pas très agréable de le regarder dans les yeux, ce personnage-là. Et puis, il y a toute cette tension pendant ce procès qui est absolument terrible. Tous les jours, pendant toute une semaine, tous les jours, on étudie une victime. Tous les jours, à midi, sortent les familles des victimes et toutes sont dans des états absolument bien extraordinaires. Vous parliez tout à l'heure de Jean-Michel Martinet, le papa de Laure Martinet. Laure Martinet était une voisine de Patrice Allègre. Elle habitait à Saint-Géniès-Bellevue. Il la connaissait, il connaissait la famille. Quelque temps après l'avoir tué, il va réconforter les parents. Il va réconforter le frère de Laure, son père. Sans vergogne,
oui, effectivement. Donc il y a ce côté glacial que vous décrivez très bien et cynique. Michel Roussel, ancien gendarme et puis directeur d'enquête de la cellule homicide 31, vous qui l'avez évidemment approché de très près, Patrice Allègre, vous êtes d'accord avec cette description ? C'est une espèce de forteresse un petit peu glaciale, comme ça, intimidante ?
Pas forcément intimidante, mais forteresse, oui, tout à fait, mais ça relève du domaine psychiatrique. Le docteur Aguri l'a qualifié de forteresse imprenable. Au niveau respect, lors de l'audience pour les familles des victimes, je ne suis pas sûr qu'ils puissent ressentir ce type d'émotion, de sentiment. Voilà. Glacial. Tout à fait, oui. Après, on peut discuter avec lui. Le discours disparaît lorsqu'on se rapproche des périodes ou de faits qui le mettent en cause ou qui pourraient le mettre en cause. Mais après, vous l'intégrez dans une soirée sportive ou post-sportive, il est un joyeux trait, un garçon qui met l'ambiance, tout ce que... Donc, c'est un caméléon. Mais le Patrice Allègre, qui va passer à l'acte, qui se prépare à passer à l'acte, oui, là, je pense qu'on tombe dans l'horreur. Alors, monstre, pas monstre, je rentrerai pas dans ce débat, mais quoi qu'il en soit, quelque chose de difficilement qualifiable, et que, de toute façon, je rejoins Maître Alfort sur ce point au moins, il aurait été impossible pour les familles de victimes d'entendre ce que leurs proches avaient subi.
Patrice Allègre est condamné, le dossier est bouclé, on pense alors ne plus entendre parler de lui, ne plus le revoir de sitôt. Un an après le verdict, son nom va soudain refaire la une de tous les journaux avec un spectaculaire rebondissement. Le 1er avril 2003, le journal La Dépêche du Midi révèle les déclarations de deux femmes ex-prostituées présentées sous les pseudonymes de Fanny et Patricia. Celles-ci indiquent que Patrice Allègre aurait bénéficié de protections policières allant jusqu'à couvrir certains meurtres. Le tueur en série aurait opéré en fait comme un rabatteur, fournissant des filles et de la cocaïne pour les parties fines de notables locaux. Il est question d'avocats connus, de magistrats, de hauts policiers et même de personnalités politiques. Le 15 avril, le procureur de Toulouse ouvre une information judiciaire contre Patrice Allègre pour proxénétisme en bande organisée et viol aggravé. La rumeur ne cesse d'enfler. Elle touche ainsi Dominique Baudis, ancien maire de Toulouse, président du Conseil supérieur de l'audiovisuel, dont le nom est murmuré. Il dénonce lui-même des accusations infondées dans le journal de 20h de TF1. Le procureur général de Toulouse, Jean Wolf, annonce aussi que son nom est cité. Une maison des supplices pour partir travesti sadomaso aurait été identifié. Jamel, un travesti, indique qu'il y a eu des morts. Le scandale gronde. Au bout de 2 ans de supputation, les enquêtes concluent en 2005 à l'absence de charges contre les personnalités citées. Patrice Allègre est exonéré de toute implication dans ces crimes considérés comme imaginaires. Fanny et Patricia seront condamnées à 2 et 3 ans de prison pour dénonciation calomnieuse. Un obscur règlement de compte dont les tenants et les aboutissants n'ont jamais été vraiment éclaircis. Dans cette sombre histoire, le tueur en série avait été présenté comme un terrifiant bourreau. Un homme qui essayait les nouvelles filles pour ses clients huppés et les tuait à main nue si elles ne faisaient pas l'affaire. On lui imputait alors plusieurs crimes, notamment celui de Lynn Galbardi, exécutée dans une chambre d'hôtel, ou encore de Claude Martinez, un travesti prostitué. Autant de charges abandonnées par les juges. Patrick Tégéraud, journaliste à RTL à Toulouse. Alors ça, c'est l'histoire Allègre dans l'histoire Allègre. Mais quelle histoire ? Parce que c'est il faut s'en souvenir, c'est un cataclysme, cette histoire.
Ah, complètement. Complètement un cataclysme. Personne ne s'attendait à ça. Les rumeurs les plus folles ont toujours circulé autour de Patrice Allègre, hein, en près de Corriche, bien entendu. Mais là, ça, personne ne s'y attendait. Et ça tient sur les allégations de celles que l'on appelle Fanny et Patricia. Je les ai rencontrées, je les ai longuement interviewées. Ce n'est rien de dire qu'elles sont extrêmement perturbées. On a du mal à les croire, et force est de constater que quand on vérifie leur dire, eh bien, à chaque fois, on ne trouve rien. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi un tel torrent de boue se déverse sur Toulouse, sur quelques magistrats, sur le premier magistrat de la ville aussi à l'époque? Pourquoi un tel torrent de boue? Est-ce qu'il y a peut-être autre chose de plus grave à cacher? Moi, c'est peut-être l'impression que j'en ressors de tout cela, parce que tout ça finira par rien du tout. Non-lieu, vous l'avez dit tout à l'heure, dans les affaires dites de proxénétisme autour de Patrice Allègre, condamnation même pour dénonciation imaginaire, dénonciation de délit imaginaire pour justement Fanny et Patricia. Voilà. Alors, peut-être que ce montage était assez séduisant dans l'esprit, puisque vous parlez tout à l'heure de la mort de Lynn Galbardi. Tout partirait de là. Il y aurait eu pour les premières constatations de ce meurtre la présence d'un magistrat qui a été cité de nombreuses fois ensuite dans toute cette histoire extrêmement sale, et en fait un montage. Oui. Alors, pourquoi le fait-on? Comment le fait-on? Ça reste encore un petit peu mystérieux. Mais bon, on dit que ça serait une cabale organisée par la presse quotidienne régionale, locale. Je n'y crois pas trop. Il y a beaucoup de fuites, c'est vrai aussi, dans l'instruction. Qui alimente ce robinet horrible c'est une autre histoire.
Voilà, et on n'a toujours pas, effectivement, aujourd'hui, des années après, la réponse. Maître Pierre Alfort, Patrick Tégéraud disait « on ne prête qu'aux riches ». Mais c'est exactement ça. Vous pensez qu'on s'est servi de Patrice Allègre comme une espèce de porte-drapeau du crime, et que ça arrangeait tout le monde de la voir comme ça un petit peu en paravent?
Non, cette affaire que j'appelle l'affaire Baudis est une affaire catastrophique. Enfin, je veux dire, c'est ce qui s'est passé était inacceptable, inadmissible et je dirais même honteux. La question qui se pose, c'est comment et pourquoi ces deux ex-prostituées, Fanny et Patricia, pour ne pas citer leur nom, même si elles le mériteraient, comment ont-elles pu être cru à ce point. C'est-à-dire que le problème, il est simple. C'est pas que ces deux filles disent n'importe quoi, parce que elles ont dit n'importe quoi, c'est qu'elles aient été crues. Elles ont été crues par des enquêteurs, elles ont été crues par un magistrat instructeur que je respectais beaucoup pourtant, et elles ont également été crues par le procureur de la République. Et c'est ça qui fait froid dans le dos. Ça fait froid dans le dos parce que ça a conduit à Patrick Tégéraud disait un cataclysme, un véritable cataclysme, et je veux même plus loin, ça a conduit à entraîner le décès de cet homme qui était extrêmement respectable, en l'occurrence Dominique Baudis. Mais moi, j'ai pas peur de le dire. C'est honteux ce qui s'est passé. Voilà. Je profite de ce moment pour l'énoncer haut et fort, parce que je trouve qu'il est inacceptable que ces deux filles aient pu être crues à ce point. Enfin, on était dans un délire, dans un délire excessif.
Je l'entends bien, Maître Pierre Alfort, et je comprends évidemment votre émotion, même des années après, parce qu'effectivement, ça a été, on s'en souvient peut-être pas comme ça, mais ça a été vraiment quelque chose de très puissant, de cataclysmique. Mais en quelques mots, répondez à la question que je vous posais. Est-ce qu'on s'est servi de l'image de Patrice Allègre, finalement, parce que c'est une image comme ça terrifiante, donc il pouvait tout faire, Patrice Allègre.
Non, mais on s'est peut-être servi de l'image de Patrice Allègre pour faire du mal à des notables toulousains ou non toulousains. Enfin, je veux dire, moi, à un moment, je me baladais dans les rues de Toulouse et des personnalités toulousaines me demandaient s'ils étaient ou pas sur la liste. Enfin, c'était devenu...
Oui, c'est la suspicion.
La suspicion. Et en fait, il y a cette rumeur, enfin, ces mensonges ont conduit à une rumeur qui a fait beaucoup de mal, qui a fait beaucoup de mal à des personnes qui ont du mal à s'en remettre.
Comme
je pense au procureur général, ouais. Wolf, qui est un homme très intègre, ouais. Etc., qui ne pouvait pas être impliqué. Enfin, suffisait. Vous savez, il y a même des magistrats qui ont été mis en cause par ces filles, et lesquelles ont été crues, des magistrats qui n'étaient pas en poste à Toulouse au moment où elles dénonçaient les faits. Ces filles indiquaient qu'elles avaient été violées dans le cabinet de ces magistrats. Ils n'étaient pas en poste à Toulouse. Donc, à un moment, il y avait un minimum de vérification à faire. Il y a eu un emballement médiatique, certes, mais moi, c'est pas sur les médias que j'ai envie de taper. C'est sur les personnes qui ont cru ces filles parce qu'ils avaient le sentiment, à tort, bien évidemment, d'avoir affaire à l'affaire du siècle. Voilà ce que je peux dire. Je le pense et merci de m'avoir permis de le dire aujourd'hui.
Après cet épisode spectaculaire, Patrice Allègre ne va cette fois plus refaire parler de lui. Une longue période de détention, 22 années au moins, une peine incompressible au terme de laquelle le tueur en série va demander sa libération conditionnelle. Au mois de septembre 2019, Patrice Allègre, aujourd'hui âgé de 52 ans, a déposé sa première demande de libération conditionnelle, encouragé en cela par une psychologue canadienne, Marie, mère de famille installée en France, qui visite le tueur en série depuis 2 ans et qui se présente comme sa nouvelle compagne. L'avocat d'Allègre, Maître Pierre Alfort, s'est donc chargé de cette requête en bonne et due forme. Les experts psychiatres ont rencontré Patrice Allègre à 2 reprises en juin et septembre 2020. Ils ont rendu un rapport très défavorable et même accablant pour le condamné. Selon les médecins, celui-ci présente une personnalité psychopathique avec des antécédents d'alcoolisme et de toxicomanie. Il pourrait y retomber du jour au lendemain. Les psychiatres notent chez Allègre une absence d'empathie et de réels sentiments de culpabilité. Son comportement peut être dicté par des troubles de la personnalité. Le rapport des experts note encore que le tueur n'est pas accessible à des soins. Le risque de passage à l'acte pourrait être rapidement comparable au risque qui existait avant son incarcération. Face à de telles conclusions et au fait que la justice ait refusé une contre-expertise, Patrice Allègre a préféré renoncer à cette demande qui n'a pas été à ce jour examinée. Le condamné n'exclut pas d'en redéposer une autre dans les mois ou les années qui viennent. Reste à savoir si celle-ci auront une chance d'aboutir. Maître Pierre Alfort, avocat de Patrice Allègre, est-ce que vous allez réitérer cette demande de libération conditionnelle? Comment ça va se passer juridiquement déjà?
Mais écoutez, moi, il ne m'appartient pas de prendre la décision. Je soutiendrai, dans la mesure où je pense qu'elle est légitime, une nouvelle demande de Patrice Allègre. Ce qu'il y a de sûr, c'est qu'il a déposé une demande en septembre 2019. Il est arrivé à l'issue de sa période de sûreté de 22 ans. Cette demande était légitime dans la mesure où il arrivait justement à l'expiration de cette période de sûreté. Mmh. Il ne m'appartient absolument pas de savoir si elle est ou pas bien fondée, et si Patrice Allègre est ou pas dangereux. C'est pas mon travail. Mon travail, c'était de le soutenir dans cette démarche, parce que c'est un droit, mais absolument pas de me prononcer. Donc les psychiatres qui l'ont examiné ont considéré qu'il était trop tôt pour envisager une sortie. Donc le juge d'application des peines aurait refusé cette sortie. Donc il a, il, 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 il s'est donc désisté de cette demande et il pourra, le cas échéant, en redéposer une plus tard. Moi, vous savez, en tant qu'avocat et en tant qu'humaniste, je ne veux pas désespérer. Enfin, moi, je crois qu'il ne faut pas anéantir l'espoir. Je crois en l'évolution de l'être humain et je pense que toute personne, quelle qu'elle soit, peut évoluer. Patrice Allègre y compris. Je suis peut-être naïf, mais en tout cas, moi, je le pense.
C'est votre boulot d'avocat. Hein. C'est tout à votre honneur. Ça, on ne peut pas vous enlever ça. Michel Roussel, qui avait dirigé cette enquête sur Allègre et depuis le début et très longtemps, il a été jugé, condamné, il a purgé une partie de sa peine. Est-ce que selon vous, le puzzle Allègre reste aujourd'hui incomplet ?
Absolument. Il reste à reconstituer au moins 90%, mais je me suis dans un peu d'obligation de répondre à Maître Alfort, puisqu'il y a des gens qui ont été mis en cause, qui ne sont pas autour des micros ce soir, concernant les filles qui ont été crues. Mmh. Je vais parler à mon nom, au nom de mes enquêteurs et des magistrats que j'ai, qui ne sont pas forcément cités ce soir, mais que j'ai côtoyé au plus près dans la hiérarchie judiciaire. La croyance, c'est réservé selon les religions pour le vendredi, le dimanche matin. Nous n'avons pas pratiqué de religion, nous avons pratiqué un métier. Un métier, c'est recevoir des déclarations, ensuite c'est les vérifier. La croyance, encore une fois, ça ne relève pas de notre job, et on a fait notre job. Ensuite, les filles ont menti, bien sûr, non pas, hélas, c'était des seuls à mentir, mais elles ont menti en large et à travers. Mais elles n'ont pas fait que mentir sur le dossier de Lingalbardi, je ne peux pas rentrer dans les détails, mais enfin, disons qu'elles ont révélé des faits quant à la commission de l'assassinat de Lingalbardi qui ont pu être vérifiés, recoupés lors d'une exhumation ultérieure. Là, je pense qu'on nous doit des explications. Quant à M. Baudis, lorsqu'on pousse les portes de TF1 plutôt que les portes du cabinet du doyen des juges d'instruction, effectivement, ça entraîne un déferlement médiatique qui nous a totalement saboté nos enquêtes d'homicide. Donc nous, on a subi ça. Quand je dis nous, c'est magistrats, enquêteurs. Et on a pu travailler sur des dizaines de dossiers de meurtre, de disparition. Je le qualifie de sabotage, parce que ça en est un.
Alors écoutez, M. Baudis n'est plus là pour nous répondre. Il est décédé. Et puis la justice est passée aussi sur ce dossier. Mais c'est très bien que vous nous donniez votre sentiment. Selon vous, moi je parlais à un moment donné dans cette émission de la période blanche. Vous savez, c'est cette année-là que vous avez notée, vous, enquêteurs, qui sont troublantes, puisque là, il ne se passe rien. Vous pensez que là, on peut encore trouver des choses sur Patrice Allègre à ce moment-là, dans ces années-là ?
Hélas, c'est dramatiquement hélas. On peut trouver partout. Vous savez, lorsque Patrice Allègre est dans une période sentimentale et professionnelle calme, c'est-à-dire qu'il est en couple avec Cécile et là, sa petite Anaïs qui vient d'arriver, en 3 semaines de mémoire, il commet deux faits criminels. Il travaille. Vous voyez, en 3 semaines, nous sommes dans
les années
90. Alors, ce trou de 7 ans, encore une fois, ça ne relève pas de la croyance, du sentiment ou du flair de l'enquêteur. J'ai tout simplement consulté un expert psychiatre qui m'a effectivement indiqué que c'était impossible. Ensuite, j'avais un métier, un devoir, et nous avons fait notre métier, notre devoir.
Gabriel Loubradou, fondateur de l'association Stop à l'oubli, également l'un de nos invités ce soir dans l'heure du crime. Vous pensez qu'il y a plein d'affaires autour de Patrice Allègre qui restent aujourd'hui, qui doivent être révélées, qu'on a laissées en jachère, si je puis dire?
Oui, bien sûr. Je trouve d'ailleurs que le portrait qui a été fait de Patrice Allègre en parlant des 5 crimes qu'il a commis, bien sûr, ça c'est le tueur psychopathe. Mais on ne parle pas du tout du tueur à gages, et qui couvre justement toute cette période où il y a eu les meurtres de Josette Legoix, de Marco Jean-Claude, de Marco Serge, de Martinez Claude. Des meurtres d'ailleurs qu'il a, à un certain moment, avoués. On ne parle pas du meurtre de Josette Poirou, par exemple. Donc nous savons, avec tous les témoignages que nous avons, que cette affaire, elle demande à être reprise. Ce que nous pouvons dire aujourd'hui, c'est que nous avons des preuves, parce que en tant que président de l'association, j'ai reçu plus de 50 témoignages qu'il y avait bien des cercles mafieux sur la région toulousaine dans les années 80-90, dans lesquels sont impliqués quelques magistrats, pas tous, et des membres des forces de l'ordre dans les domaines suivants, la prostitution, la drogue, le trafic de chiens, les objets d'art. Nous avons là tous les témoignages qui confirment ce que je viens de dire, avec des noms, que Patrice Allègre a pu agir, par exemple, en toute impunité.
Et témoignages, Monsieur Loubradou, que vous avez, je suppose, transmis à la justice ?
Que j'avais transmis et que, devant les deux autres personnes qui m'accompagnaient, le magistrat a mis dans la corbeille à papier en disant « n'est pas utile à la recherche de la vérité ». Voilà ce que nous avons reçu en pleine figure.
Donc selon vous, effectivement, le travail sur ce point-là est encore à faire. Je voudrais qu'on parle avec Patrick Tégéro, notre journaliste RTL à Toulouse. Patrick, cette affaire Allègre, elle a vraiment marqué les esprits à Toulouse. C'est une ville qui est toujours marquée au fer rouge par cette affaire, ou on l'oublie aujourd'hui ?
Ah non, on ne peut pas l'oublier. C'est vrai que Patrice Allègre, c'est un nom qui résonne encore dans l'imaginaire, toujours aussi, des gens. Gabriel Loubradou l'a dit. Encore une fois, je l'ai dit tout à l'heure, on ne prête qu'aux riches. Et c'est vrai qu'il a eu cette image de tueur à gages pour les souteneurs de Toulouse. Et malheureusement, il n'y a eu aucune suite judiciaire, si ce n'est des non-lieux. Donc tout ça relève pour l'instant de la pure rumeur. Et ces rumeurs continue toujours à circuler. Parce que, encore une fois, quand je vous donnais ce chiffre de 191 disparitions, viols, recherches d'un intérêt des familles non élucidées sur 10 ans, entre 86 et 97, sur 11 ans, ben, ça laisse beaucoup de douleurs dans beaucoup de familles, beaucoup d'inquiétudes, beaucoup de gens qui parlent toujours de cette affaire Allègre, qui parlent toujours de Dominique Baudis, parce que Dominique Baudis est resté aussi dans la mémoire de tous les Toulousains, bien entendu. Il a été maire quand même très longtemps ici, et il a été unanimement apprécié et réélu à chaque fois. Et voilà, que l'on ait fait ce faux procès quelque part au premier magistrat de Toulouse a marqué plus d'un Toulousain, bien entendu. Et encore aujourd'hui, personne n'a oublié.
Personne n'a oublié.
À Toulouse, il y a eu deux séismes énormes. Il y a eu AZF et l'affaire Baudis-Allègre.
Et l'affaire Baudis-Allègre. Merci beaucoup, Patrick Tégéro. Merci, Maître Pierre Alfort, Michel Roussel et Gabriel Loubradou d'avoir été ce soir les invités de l'heure du crime avec le parcours sombre et tortueux d'un tueur en série nommé Patrice Allègre, qui attend son heure pour quitter sa prison. Affaire à suivre, évidemment. Merci à Justine Vigneault, Marie Bossard d'avoir préparé cette émission, Marc Bisset à la réalisation. Un immense merci à vous toutes et tous d'avoir partagé ce soir cette heure du crime.